Dans la fameuse série de Tolkien, Seigneur des Anneaux, il y a un tome qui s'intitule Les Deux Tours. Le livre de 1 Samuel pourrait aussi être appelé Les Deux Rois. Ce livre suit les deux parcours, les deux trajectoires de ces deux hommes, celui du roi Saül, celui du roi David. Et jusqu'à présent, Saül, c'est lui qui avait le trône, il avait la force, il avait le pouvoir, il avait la taille, il avait la majorité avec lui. Et David, il était plutôt persécuté, minoritaire, pourchassé, exilé. C'était le petit dernier de sa famille. Mais maintenant, tout va changer, tout va basculer. Un jour, je parlais avec ma voisine. Il y a quelques années, elle avait perdu son travail. Ça s'est mal passé avec son patron, depuis toujours. Elle disait, avec mon patron, chaque fois que je le voyais, mon patron, il se mettait là, et il me mettait là. Eh bien, le jour que j'ai été renvoyé, eh bien, moi, je l'ai mis là. Et moi, je me suis mis là. Je ne célèbre pas son attitude, mais j'ai apprécié ses gestes, parce que ces gestes, vous les avez tous compris, ces gestes, finalement, sont aussi des catégories bibliques. Là-haut et en bas. Tout le monde va être là-haut, personne ne va être en bas. Mais beaucoup de commentateurs pensent que le verset clé de ce livre se trouve dans la prière d'Anne, tout au début, que j'affiche maintenant sur le mur même, 1 Samuel 2, 6 à 7, où Anne, dans sa prière, dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » Et ces versets résument bien les événements que nous allons étudier ensemble ce matin. Parce que dans ces chapitres 27 à 30, c'est exactement ce que nous voyons. Nous voyons que l'Éternel va faire mourir Saül. Il va faire vivre David. Il va faire descendre Saül au séjour des morts. Il va faire remonter David de l'exil et de la détresse. Et même d'une situation où il a failli être lapidé. Il va appauvrir Saül. Et il va enrichir David. Il va abaisser Saül. Il va élever David. Tout comme dans la prière d'Anne. Ce livre d'Anne Samuel, c'est l'histoire de ces deux rois. Les deux voies qu'ils ont choisies et la manière et les voies de l'Éternel. Alors je pense qu'à travers ces événements, Saül contre les Philistins, David contre les Amalécites, eh bien l'auteur nous invite à faire un comparatif entre ces deux rois, entre Saül et David, pour nous inciter à suivre plutôt David, en tout cas le côté de David, la voie de David. Aujourd'hui David n'est pas là. Mais encore aujourd'hui, nous avons le choix de suivre la dynastie de David, la maison de David, le fils de David, qui pour nous est Jésus-Christ. Alors c'est ça la question ce matin, quel roi allez-vous suivre, quelle voie allez-vous suivre? Nous allons comparer la voie de David et la voie de Saül et voir où chaque voie amène. Voilà ce que nous allons comparer ce matin. Tout d'abord, voir que Saül, il consulte les morts et il tombe vraiment par terre. David consulte le vivant, il est relevé. Ensuite, nous allons voir que Dieu livre Saül à ses choix. Dieu délivre David des siens. Et enfin, Saül conduit ses troupes à la défaite. David conduit ses troupes à la victoire. Alors, tout d'abord, Saül consulte les morts, David consulte le vivant. Tous les deux, David et Saül, se trouvent dans ces chapitres dans une situation d'angoisse, une situation de détresse. Saül est face à toute l'armée philistine. Et en chapitre 28, verset 5, il est dit qu'il fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. David aussi, dans chapitre 30, fait face à une situation similaire. Il est dit que voilà, les Amalécites avaient ravagé sa ville, Ziklag, avaient amené sa famille. Et donc, il est dit que tout le peuple pleurait, puisqu'il n'avait plus la force de pleurer. Verset 6, David était dans une grande angoisse. Donc, on pourrait dire que Saül et David se trouvent dans une situation similaire. Tous les deux cherchent une direction, tous les deux cherchent un conseil, tous les deux cherchent à consulter. Alors voyons comment Saül se prend. En chapitre 28, verset 6, Saül veut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répond pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. En soi, la démarche de Saül est bonne, mais nous reconnaissons que l'attitude, le fond de son cœur, ne l'est pas. Il n'a pas cette attitude de foi et de confiance et de dépendance sur Dieu que David peut avoir. On le voit bien parce que, ne recevant pas de réponse de Dieu, il va consulter les morts, il va chercher une femme qui évoque les morts. L'attitude, c'est comme s'il disait à Dieu, voilà, si tu ne me donnes pas la réponse qui me convient, moi j'irai ailleurs. Et puis, on peut aussi comprendre pourquoi il ne recevait pas de réponse. Saül avait massacré toute la ville des sacrificateurs. Lui qui ne voulait pas mettre à mort les Amalécites, il n'a pas eu de problème à massacrer les sacrificateurs, toute cette ville de Nob, où se trouvaient les sacrificateurs et les phodes et les manières de consulter l'Éternel. Tout ça, il avait massacré. Alors, Saül qui dit, mais on ne me répond pas, on lui dit, Saül, tu viens de tuer tous les prophètes. Alors, il ne faut pas s'étonner. Et je pense que c'est un avertissement à tous. Si on cultive une vie d'indépendance de vis-à-vis de Dieu, de désobéissance, si on prend l'habitude de ne pas écouter sa voix par les moyens qu'il nous donne, eh bien le jour où on en a besoin, c'est peut-être plus possible, comme cela a été pour Saül. Alors il se tourne vers les morts, il se tourne vers ces moyens, les personnes qui évoquent les morts. Nous y reviendrons en quelques instants. Mais il y a une ironie terrible qui ressort dans le verset 10. Cette femme a peur que... Elle sait qu'il y a une interdiction d'agir ainsi, alors elle a peur qu'elle va être punie. Alors Saül dit en verset 10, il jura par l'Éternel en disant « L'Éternel est vivant ». C'est fort. Quand même, lui, dans sa bouche, on trouve le langage « L'Éternel est vivant », mais par ses actes, c'est comme si, pour lui, l'Éternel est mort. Et puis, est-ce qu'il reçoit un conseil? Est-ce qu'il reçoit une direction? Est-ce qu'il reçoit de l'aide dans cette consultation? Eh bien non, même Samuel, le prophète Samuel, finalement, il a l'occasion de parler avec Samuel. Mais Samuel ne lui donne pas un conseil, ne lui donne pas une direction de vie. Samuel, tout ce qu'il lui donne, c'est une mauvaise nouvelle. Tu vas mourir, tu vas perdre. Et le verset 20, après ça, c'est très parlant, verset 20, « Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. » Vous voyez, la chute est quasiment complète pour Saül. Lui, c'était un grand homme. Il avait été choisi pour régner aussi pour ça. Mais il tombe à terre de toute sa hauteur, souligne le texte. Et dans quelques heures, il va tomber sur le champ de bataille. Et la voie qui s'était choisie, la voie de la non-repentance, la voie de l'endurcissement, la voie de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, ce que la Bible appelle la voie de l'homme, cette voie ne pouvait qu'amener à cette chute. Et sa chute est littérale, là, il tombe par terre, et le verset dit qu'il n'a plus de force, il manque de force, et il va terminer sa vie ainsi. Saül consulte les morts et tombe. Maintenant, regardez David. L'auteur va mettre l'histoire à côté pour montrer que c'est tout le contraire. Quasiment au même moment, il y a des événements qui se passent au même temps sur différents lieux. Saül à Gilboa et puis David à Ziklag. Tout ça se passe au même moment. Alors, au même moment que Saül doit gérer son problème, David a lui un problème. Verset 6, mais là on voit tout le contraire de chez Saül. Chapitre 30, verset 6. Avec, dans cette situation d'angoisse, de détresse, il est dit que « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Abiathar, c'était celui qui était le seul à pouvoir échapper de Saül quand il avait massacré la ville de Nob et il était parti avec l'éphod, qui était voilà, le signe du sacrificateur, cet outil par lequel il pouvait consulter l'Éternel. Et David consulte l'Éternel, et cette fois-ci, il reçoit une réponse. il reçoit une réponse immédiate. Verset 8. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Pour Saül, c'était silence radio. Pour David, il a une réponse directe. En plus, Dieu va au-delà peut-être dans sa réponse. Normalement, l'éphod, on interrogeait l'éphod ou l'urim et on pouvait s'attendre à une réponse binaire. Est-ce que je fais ci, oui ou non? Et c'est ce que David demande. Poursuivrai-je cette troupe? Et l'Éternel dit oui, tu l'atteindras et tu délivreras. Donc il y a vraiment une révélation de la volonté de Dieu. Tu vas réussir, tu vas délivrer ces gens. Alors David repart encouragé, évidemment, il repart plus fort. Saül était tombé à terre. David repart fort de savoir qu'il est dans la volonté de Dieu, fort de savoir que Dieu est avec lui. Il est appuyé sur l'Éternel et il va aller vers la victoire. Donc pour les premiers lecteurs de ce livre, c'était des générations successives, après David et tout ça. Mais toute l'histoire d'Israël, souvent ils devaient choisir, est-ce que je vais me mettre du côté de David, de sa descendance, ou est-ce que je vais me mettre de côté de l'autre? Vous savez, il y avait le royaume qui s'était divisé dans la suite. Et puis toute l'histoire d'Israël, ils attendent à se mettre plutôt de côté de David. Et donc la question, c'est pour ça que cet auteur parle de Saül et parle de David en décrivant ces détails. Parce que nous tous, nous pouvons lire et se dire, est-ce que je veux suivre quelqu'un comme Saül? Ou est-ce que je veux suivre quelqu'un comme David? Est-ce que je veux marcher dans la voie de Saül? Ou est-ce que je veux marcher dans la voie de David? Si je marche dans la voie de Saül, la voie de l'homme, voilà, Dieu, il ne répond pas. Et le résultat, c'est échec et chute. Si je suis la voix de David, cette voix de confiance et de foi, si je me mets de côté du choix de Dieu, Saül était le choix des hommes, David était le choix de Dieu, si je me mets de côté du choix de Dieu, David et sa descendance, eh bien, je vais suivre quelqu'un qui a un accès direct auprès de Dieu, qui reçoit la force de Dieu. Donc Saül consulte les morts, David consulte le vivant. Premier contraste flagrant. Ensuite, nous voyons maintenant que Dieu livre Saül à ses choix. Dieu délivre David des siens. Déjà, depuis un certain temps, Saül est incapable de prendre une bonne décision, de faire un bon choix, parce qu'il marche dans cette voie de la désobéissance, la voie de la non-repentance, la voie de la jalousie, la voie du « j'ai toujours raison ». Alors Dieu va commencer à le livrer à ses choix. Saül décide, il fait le choix d'aller consulter une voyante. Mauvais choix. Lui-même avait banni les sorcières, les voyants, tous ces moyens occultes du pays. Il savait que c'était formellement interdit par la loi de Moïse. Encore aujourd'hui, la Bible et la foi chrétienne condamnent formellement cette démarche et tout ce qui est occulte, voyance, médium. Dans ces domaines, effectivement, il y a un côté qui est purement superstition, plutôt les charlatans qui exploitent les personnes superstitieuses. On connaît Astérix et le devin. Le devin passe tout son temps à convaincre les Gaulois que c'est un vrai devin. Il passe tout son temps à essayer de convaincre les Romains que c'est un charlatan. Et il est coincé entre les deux feux. Donc, beaucoup de charlatanerie dans ce domaine, mais nous croyons aussi qui a aussi un aspect vrai, mais néfaste, ce contact avec le monde occulte, qui pour nous est un contact avec les mauvaises puissances, les démons. C'est encore pratiqué aujourd'hui. Nous ne croyons pas qu'ils ont vraiment un contact avec les morts, mais ce serait plutôt des démons qui prennent leur forme et qui parlent à leur place. Et c'est pour ça que la Bible dénonce tout ça, parce que c'est un trafic avec les mauvais esprits. Ce qui explique pourquoi cette femme est si surprise et choquée quand c'est le vrai Samuel qui apparaît. Elle n'a pas l'habitude, elle a plus l'habitude d'une autre pratique. Et quand c'est le vrai Samuel, elle voit que c'est plus elle qui est au contrôle et ça lui échappe, cette situation. Saül a fait le très mauvais choix de passer ainsi. Selon la loi de Moïse, consulter les devins, les voyants, c'était passable de peine de mort. Samuel lui avait dit, d'ailleurs, que la désobéissance est aussi pure que la divination. Mais c'est déjà pour lui que la divination est hautement condamnée par Dieu, par la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, des pratiques ainsi, c'était passable de peine de mort. Saül va faire ce choix et la peine de mort va pas tarder à lui tomber le lendemain. Donc on voit que Dieu livre Saül à ses propres choix pour qu'il avance plus dans le jugement. Il y a un autre détail qui ressort, qui est intéressant, c'est que Saül, pour aller voir cette femme qui consulte les morts, qui évoque les esprits, il se déguise. Donc il enlève ses vêtements de roi, qui pourrait faire qu'il soit reconnu. Il enlève ses habits de roi et il se déguise. Dit le verset, il prit d'autres vêtements. Et nous savons maintenant, depuis que nous étudions cette histoire, que le robe du roi est important. David se sentait même repris d'avoir coupé même le pan de robe de Saül. C'était symbolique de son pouvoir, de sa position, de sa place. Cette robe, ces vêtements royaux. Jonathan était prêt à donner les siens à David en signe de ce qu'il reconnaissait, en quelque sorte que David était le futur roi. Que Saül enlève ses habits royaux, c'est parlant. D'ailleurs, Dieu est en train de le détrôner, Dieu est en train de le défroquer, mais c'est Saül qui le fait lui-même et qui enlève ses habits royaux pour indiquer aussi quelque part il arrête et il est plus digne d'être roi. Parfois, quand Dieu veut punir quelqu'un, il le livre à ses propres choix, ses propres bêtises avec leurs conséquences. Et c'est vraiment ce qu'il a fait dans la vie de Saül. Et c'est triste et tragique. Mais à côté de ça, nous pouvons comparer David. Alors David aussi se trouve dans une situation délicate, difficile, du fait qu'il était allé se réfugier. Il a fait le choix d'aller habiter chez les Philistins. Et tout le suspense de cette histoire commence en chapitre 28 que nous avons lu, où le roi des Philistins dit à David, « Bon, maintenant tu viens avec moi. » Et nous allons nous battre contre Israël. Et nous devons tous nous poser la question, mais comment David va faire pour s'en sortir? Il vient de devenir le garde du corps du roi Achish. Il doit l'accompagner dans la bataille. Mais c'est un gros dilemme pour lui. Les Philistins vont attaquer Israël. Est-ce que David va attaquer son propre peuple? Est-ce que David va se trouver dans une bataille contre Saül, contre son ami Jonathan? Pour sa future carrière de roi, ce serait affreux de dire « j'ai combattu contre Israël ». Alors, je comprends, il ne veut pas faire ça. Mais en même temps, Achish l'avait bien accueilli. Achish, finalement, était un roi plus ou moins intègre de ce que nous voyons. Il était roi d'un peuple ennemi de Dieu, mais un roi intègre. Saül était un roi corrompu du peuple de Dieu. Alors, il pouvait accompagner Achish dans la bataille, puis se retourner contre lui, se trouver dans les bonnes grâces de Saül s'il attaque contre les Philistins. Mais David ne veut pas être fourbe ou déloyal envers quelqu'un qui lui était plutôt accueillant. Alors vous voyez la situation délicate dans laquelle il se trouve. C'est soit trahir Saül, soit trahir Achish. Les événements se déroulent et comment il va faire? On imagine bien David en train de marcher avec ses gars, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver ici? Mais comment je vais faire? Mais rappelle-moi les circonstances qui m'ont conduit ici, parce que là, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Mais on voit que, déjà, il y a une certaine sagesse et prudence chez David. J'aime bien quand il répond à Achish. Achish dit, ok, tu viendras avec moi, hein, tu vas être mon garde-corps et on va aller attaquer ensemble. Et David répond, verset 2, tu verras bien ce que ton serviteur fera. C'est un peu comme Jésus qui répond lorsqu'ils disent « Mais est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» Il dit « Tu le dis. » Voilà, sa réponse est prudente. Tout comme David. David dit pas « Non. » David dit pas « Oui, je vais battre contre Israël avec toi. » David dit pas « Non. » Il dit « Tu verras ce qu'on va faire. » Et là, nous voyons, contrairement à Saül, où Dieu livre à cette circonstance et c'est sa perte, Dieu va délivrer David. C'est ça qui est... quelque chose de merveilleux dans ce récit. Dieu va délivrer David de cette circonstance difficile. Vous avez peut-être vous-même, vous êtes retrouvé dans une circonstance, vous ne voyez pas comment s'en sortir. Si je fais ça, je me grille avec ces personnes-là. Si je fais ça, je me grille avec d'autres personnes. Où est la volonté de Dieu dans tout ça? Comment obéir? La vie nous présente souvent des cas comme ça. Eh bien, Dieu s'occupe de David. C'est ça qui est beau. Tout d'abord, les chefs des Philistins, les commandants de Achish, peut-être ils sont un peu moins naïfs que lui, mais ils disent, non, ça, on connaît David, c'est celui qui tuait les 10 000 d'entre nous. Hein. Vous vous souvenez de ce chant, il tuait ces 10 000, c'est pas sûr qu'on le veut avec nous dans une bataille contre Israël. Donc, non, il ne participe pas avec nous. Achish est plutôt déçu parce qu'il aime bien David, mais il dit, tous mes commandants disent que non, alors il faut que tu partes. Donc déjà, c'est Dieu qui délivre David et qui dirige ses pas. Et on voit que David, il marche non par la vue, mais par la foi. Et voilà déjà une réponse pour David. Et puis, le chapitre 30, après ça, David revient chez lui à Tziklag et il trouve que Tziklag avait été saccagé et tout le monde est amené par les Amalécites. Situation terrible. Mais nous pouvons dire que ça, c'est une bénédiction déguisée de la part de Dieu. Parce que maintenant, cette histoire de Tziklag va servir d'alibi pour David. Vous savez ce que c'est un alibi? C'est une preuve que vous n'étiez pas là au moment du crime. Si on m'accuse d'avoir cambriolé une banque entre 11h et midi ce matin, j'ai 150 personnes, j'espère, qui peuvent dire « Non, ce n'est pas possible ». Eh bien, David, maintenant, il a un alibi au moment où Saül et Jonathan vont mourir. Parce qu'un souci de ce livre, c'est de montrer que David n'a jamais provoqué la chute de Saül. David n'a jamais magouillé pour monter au pouvoir. David a toujours suivi la voie de Dieu, pas la voie des hommes. Et vous connaissez la voie des hommes en ce qui concerne politique. Par exemple, la méthode de monter, c'est écraser l'autre. Et pour ça, on se permet tous les mauvais coups. Autrefois, on poignardait ou on empoisonnait le roi dans son lit, et puis on s'installait. Ça, c'est un mauvais coup. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes. Il suffit de regarder dans les coulisses des partis politiques, ou même le football, tout ça. On sait comment ça marche pour diffamer l'autre, pour faire baisser l'autre, pour prendre sa place. Mais c'est des mauvais coups. Alors, David, qui est en train de monter au pouvoir, tout le monde pourrait se demander, mais est-ce qu'il a fait par un mauvais coup? Est-ce qu'il s'est arrangé pour tuer le roi en place, pour se mettre à la place, comme beaucoup l'ont fait, pour accéder au pouvoir? Mais la réalité, c'est que le jour où Saül et Jonathan sont morts, David était à des kilomètres de tout ça. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que David ne soit pas là, pour que tout le peuple reconnaisse que voilà, il n'a rien fait de mal, de mauvais pour monter au pouvoir, mais c'est Dieu qui l'élève. Personne ne pouvait le soupçonner d'un mauvais coup ou d'avoir aidé les Philistins. Ça aurait été terrible s'il avait participé avec les Philistins et contre Saül dans la suite. Mais ce livre montre bien que David, tout au long, il est intègre, il est respectueux de l'autorité, il reconnaît que Saül avait été loin de Dieu et jamais il touche à ça. Et c'est beau de voir comment Dieu donc l'a délivré par une situation qui semblait tragique, difficile, mais finalement cette situation à Tziklag va servir pour David. Et encore la question pour nous donc, voulons-nous suivre quelqu'un comme Saül qui ne fait que prendre les mauvaises décisions à sa perte, ou voulons-nous suivre quelqu'un comme David qui bénéficie de la délivrance de Dieu dans toutes les situations les plus impossibles, les plus inextricables? Saül, dans ce livre, représente bien la voie de l'homme. Et cette voie, l'issue, dit la Bible, c'est la mort. Et Dieu livre des gens à leur péché quand ils vivent sans lui. Mais la voie de David, c'est aussi la voie de Christ, la voie de la foi. Et Dieu a toujours su délivrer Jésus des situations les plus terrible, y compris une crucifixion. Ça, c'était une situation inextricable. Mais Dieu l'a délivré de ça. Il a tout arrangé pour que même cette crucifixion serve à le glorifier, à l'élever par la résurrection. Voulons-nous suivre un tel roi? Et la réponse est oui. Toute cette histoire nous prépare à dire oui, je veux suivre un roi comme David. Et enfin, dernière comparaison, Saül conduit ses troupes dans la défaite, David conduit les siennes dans la victoire. Saül, c'est évident, il n'a plus de force, il est abandonné de l'Éternel, on lui a dit qu'il va perdre. Alors la bataille le lendemain se passe ainsi. L'Éternel, comme disait Samuel, a livré le camp d'Israël aux Philistins. Et beaucoup sont morts avec Saül. Donc, Saül, nous voyons ici une fin tragique, à une vie tragique. Saül avait beaucoup de potentiel. Il avait mené Israël pendant 40 ans. Il avait beaucoup de qualités. Il pouvait remporter les victoires. Mais en choisissant la voie de l'homme, la voie de la désobéissance, la voie de la non-repentance, il se conduit et conduit ceux qui sont à sa suite dans la défaite. Triste. Mais David, c'est tout le contraire. David, lui, ce même jour, il est engagé lui-même dans une bataille. Et là, visiblement, Dieu est avec lui. Il doit affronter les Amalécites. C'est intéressant parce que les Amalécites, c'est ceux que Saül avait refusé à éradiquer, à détruire. Samuel le lui rappelle, c'était ça sa grande désobéissance. Et ici David va, avec le courage que Dieu lui donne, avec la volonté, en s'appuyant sur l'Éternel, sa volonté, lui, il va faire ce que Saül n'a pas fait, il va s'attaquer aux Amalécites et remporter la victoire. Et donc David part courageusement avec ses troupes au péril de sa vie. Hein. Ils sont un petit nombre vis-à-vis de toutes ces Amalécites, mais et même il y a la moitié qui sont fatigués, ils les laissent derrière et puis ils continuent avec d'autres hommes et ils arrivent sur les Amalécites. Donc avec beaucoup de courage, ils les attaquent et puis ils délivrent tout le monde, ils délivrent ses femmes, ils délivrent les enfants et ils reviennent avec un grand butin, une grande richesse. Et même sa manière de gérer le butin montre qu'il est un bon dirigeant, un bon roi. Déjà, il sera un bon roi parce que sa manière de gérer le butin est sage et bon et compatissant. Il y avait les moitiés qui étaient restées avec les bagages. Alors certains disent, mais non, ils n'ont rien fait, alors ils n'ont droit à rien du butin. Et David dit, non, la victoire est partagée aujourd'hui avec tous. Donc tous ont un part équitable et ils distribuent le butin avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de sagesse. Même il envoie des cadeaux, des présents à des chefs en Juda. Nous voyons qu'il commence à gérer les choses sagement comme un bon roi. Voulez-vous donc suivre quelqu'un comme Saül qui vous conduit à la défaite? Ou voulez-vous suivre quelqu'un comme David qui vous délivre, qui vous enrichit? Telle est la question de ce livre. Un des premiers contacts que j'ai eu avec Spurgeon, vous connaissez ce fameux prédicateur anglais, c'était un message que j'ai lu sur ce verset, 1 Samuel 30:20, juste cette phrase, « C'est ici le butin de David ». Et à partir de cette phrase, il disait, voilà, c'est une belle image aussi de Jésus-Christ, le fils de David, le roi comme David, qui est parti pour nous délivrer. Il a réussi à ramener tout sain et sauf, nous qui étions embarqués, prisonniers, captifs du péché, de Satan. Eh bien, David, le fils de David, s'est attaqué à tout ça et nous a ramenés. C'était plus qu'au péril de sa vie, c'était au prix de sa vie. Mais ensuite, il est revenu à la vie en nous entraînant à sa suite. Alors, ce matin, nous pouvons dire, c'est ici le butin de David, de Jésus. C'est ici, dans cette salle, le butin de Jésus, puisque vous êtes les trésors, vous êtes ce que Jésus a racheté, a sauvé, a délivré, et il vous ramène. Et le Nouveau Testament dit que les membres de l'Église, avec les dons qu'ils ont, les dons spirituels, les dons qu'ils mettent à service de Dieu, ben c'est ça, les richesses, le butin que Jésus a acquis par sa mort et sa résurrection, il nous entraîne dans la victoire. Donc, toute une incitation ce matin à suivre plutôt le roi comme David et pas un dirigeant, un chef comme Saül. Alors, pour revenir à ma voisine, je l'ai mis là et moi je me suis mis là. C'est vrai que c'est aussi l'histoire de la Bible. Dieu parle dans ces catégories là et là, comme il avait annoncé depuis le début de 1 Samuel. Mais j'ai pu lui dire que l'histoire de la Bible, c'est plus que ça aussi. Parce que Dieu qui était là-haut, il s'est mis en bas. Pour nous relever avec lui en haut. Et quand on connaît ce message, nous pouvons gérer ce genre de situation dans la vie où effectivement les autres essaient de monter, de s'écraser. Mais nous savons maintenant, avant la chose, nous savons que cette voie comme Saül mène en bas. Par contre, la voie de Christ qui commençait en bas, par la petitesse, par l'humilité comme David, c'est la voie qui mène en haut et qui nous permet d'être assis avec les grands. Alors ceux qui prennent la voie de Christ, la voie de David, se trouvent élevés, exaltés. Ceux qui prennent la voie de Saül se trouvent abaissés. Alors prenons la voie de David.